Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant pour Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
coup, limite,
il y a un coup de cul, mais il y a rien d'extraordinaire.
Oh non, non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After, spécial drôle de dame, comme tous les lundis soirs, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger pour l'Angleterre. Une drôle de dame qui, à la différence de Mo Salah, n'attend pas la 82e minute d'un match pour clasher le Silver et Paul anglais. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous. Effectivement, moi c'est beaucoup plus rapide.
Ouais, c'est même avant les matchs. Pour l'Italie, une drôle de dame qui rêve d'un clash avec Massimiliano Allegri, mais pour ça il faut s'infliger un match de la Juve à Turin. Et ça, c'est aussi de ses forces. Bonsoir Yvan Crochet.
Non, moi j'aime débattre avec les gens qui aiment le football, donc a priori ce sera pas avec Allegri. Bonsoir à tous.
Pour l'Espagne, une drôle dame qui, comme Mo Salah, a eu un jour un clash avec son mentor Daniel Riolo, mais c'était pas à 8 mois de Noël. Fred Armel, bonsoir.
Oh là Chico, ça est pas mal celle-là. Ça allait rester celle-là. Hein.
Bah,
on en parle souvent.
C'est culte. Hein.
Il y en a quelques-unes, hein, mais comme ça.
Et pour l'Allemagne, une drôle dame pour qui le clash Salah-Klopp n'est qu'un échange de caresses mièvres. Rendez-nous la grosse patate façon les Arasou à Matthaus. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Nico, je valide à 100% ce que tu viens de dire. Quand j'ai entendu Clash, j'ai été précipité pour voir ce que c'était. Bon, franchement.
Ouais, pour toi, c'est surtout un groupe de rock, hein, les années 80.
Mais c'est vrai que les Clash, c'est pas mal aussi.
Les drôles de dames, on est ensemble jusqu'à 22h. De quoi allez-vous nous parler ce soir? Je commence avec toi, Johan.
On va parler évidemment de l'Atalanta avant ce match contre l'OM. On va faire un petit focus sur Gasperini. Est-il l'entraîneur le plus influent d'Italie sur ces dernières années? Spoiler, la réponse est... elle tient en 3 lettres. Voilà. On ne dira pas la réponse totale. On va évidemment évoquer aussi le Scudetto de l'Inter, son 20e, avec la fête. Et surtout, comment ce projet a réussi à amener l'Inter à gagner ce Scudetto et peut-être à ouvrir un cycle victorieux. On avait déjà un petit peu parlé dans l'after. Et puis, on fera un petit tour, malheureusement, du côté de Sassuolo, où ça ne se passe pas super, super bien.
Julien.
On va parler du derby du nord de Londres, bien sûr, entre Tottenham et Arsenal hier, qui était assez spectaculaire. En soi, on va parler bien sûr de l'embrouille, on a déjà parlé entre Salah et Klopp. Et puis aussi le premier promu de Championship en Première Ligue, ça y est, on sait qui c'est.
Fred.
Bien entendu, on va parler du Real, qui dernier représentant espagnol des Coupes européennes, demain qui affronte le Bayern Munich, le classico européen. Est-ce que les Madrilènes ne sont pas un petit peu trop confiants après l'exploit entre guillemets face à City? On va se poser la question. On va parler du derby de Séville, hein, hier soir, parce que ça reste le plus beau derby d'Espagne, j'expliquerai pourquoi. Et puis, on va évoquer les clashs, je vais me souvenir d'un clash dans le vestiaire du Real avec deux Portugais.
Voilà.
Polo.
Bon, ben, évidemment, on parlera du Bayern Munich pour le fameux derby d'Europe avec contre le Real, fait les forces et les faiblesses. Je pense que le public français, en tout cas parisien, va aussi s'intéresser au match de mercredi entre le Borussia Dortmund et le PSG. Donc on va regarder un petit peu, est-ce que ce Borussia Dortmund est si faible qu'on veut bien le dire, ou en tout cas que veut l'écrire la presse française. On s'intéressera un petit peu au fameux Chabi Time, là en ce moment, qui me fatigue énormément, sauf pour les footix. Et la dernière petite minute, on s'intéressera à un club de Bundesliga.
Voilà le programme des drôles de dames. Beaucoup de questions également déjà sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour vous abonner, poser vos questions. Tiens, je tease, hein, Idir nous dit salut à tous, c'est Karm qui dit ça. Johan, peut-il nous dire s'il était entraîneur de l'OM, comment l'OM doit jouer l'Atalanta? On en parlera dans quelques minutes, bien sûr. Et puis à 22h, l'After avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, 2 heures de Ligue 1 comme tous les lundis évidemment. Stéphane Guy, Daniel Riolo seront là. On aura Grégory Lorenzi tout à l'heure avec nous, l'occasion de faire le point sur la suite évidemment des festivités à Brest.
Directeur sportif,
exactement. Le stade, le recrutement, le bilan de la saison qui est forcément bon. Et puis bilan parisien, forcément le titre. On en a pas parlé hier soir, puisque hier soir, bon bah il y avait le match de l'OM, il y avait le super match Rennes-Brest. Mais ce soir, on va prendre le temps quand même de mesurer ce titre en comparaison des précédents pour Paris. Et puis débat également concernant les places européennes, débat concernant le maintien et la sonorisation des arbitres. Bonne ou mauvaise idée? On en débattra tout à l'heure dans la fin, puisque ça a été annoncé aujourd'hui. L'année prochaine, on va, voilà. Vous voulez un soin, monsieur Armel?
Moi, j'aime bien.
La France sera le laboratoire du football européen.
Ouais. Voilà. Franchement, ça serait. Moi, je trouve que c'est une super idée.
Bah, nous, on va se régaler le soir dans l'after.
Ah, bah oui.
On aura en version originale les commentaires des invités.
Strictement à
bah si,
rien.
Si. Alimenter l'after, c'est très bien.
Oui, d'accord. Ok. Sur ça, ok.
Bah, à entendre comment les joueurs se comportent pas avec les arbitres.
Bah, ouais, c'est ça aussi.
Non,
parce que parfois
non, ça peut pas discipliner les joueurs. Mais maintenant que leur échange est connu.
Ah ça, éventuellement. Mais oui. Sur genre la connaissance pour le grand public, on le voit. Il y a des arbitres dans les émissions de foot partout, etc. Ils expliquent, des anciens arbitres qui expliquent, ou les arbitres à la fin des matchs, ça change rien. Si t'as pas envie d'être d'accord avec la décision de l'arbitre, tu seras pas plus d'accord parce que.
Ouais, mais l'arbitre, il a toutes les infos parce qu'il le vit en direct.
Et puis en France,
donc ça va aider à comprendre leur décision.
En France, on n'entend pas les arbitres après les matchs expliquer sur leur décision.
Moi, je les entends en Italie.
Oui, mais nous,
soit des arbitres, soit des ex-arbitres. Maintenant, on a même sur DAZN qui diffuse le foot, on a même une émission spéciale, une chronique spéciale où on diffuse les sonores des arbitres entre arbitre et VAR.
Ah ben en Espagne on l'a aussi depuis quelques semaines.
Mais ça sert à rien, il y a toujours autant de polémiques. Si t'as pas envie d'être d'accord, tu seras pas d'accord.
Ouais, mais là ça sera en direct. Là, on est d'accord que ça sera en direct, il y a pas de montage.
Ça sera en direct.
Ah non, ça sera en direct.
Parce que le problème c'est que
nous comme en rugby,
là aussi en Espagne on a la discussion entre le VAR et l'arbitre, mais qui te dit qu'il y a pas eu un montage fait par la Fédé avant? On sait jamais, alors que là, ça sera du direct.
Bon, ce sera un débat à partir de 22h dans l'after avec Gilbert. A tout à l'heure, Gilbert, pour l'after de 22h à minuit. C'est parti pour les drôles de dames. Polo, il y avait meilleure façon de préparer une demi-finale de Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund, qui s'est fait étrier par Leipzig 4-1. C'est un peu le tarif quasi chaque week-end de Leipzig en ce moment. Est-ce que cette défaite raconte la forme du Borussia avant de recevoir Paris mercredi soir?
Je suis pas persuadé. La première des raisons, tu viens de le dire, c'est qu'en ce moment, le club saxon est inarrêtable. Il met des piles à tout le monde. Il est invaincu depuis la double rencontre contre le Real Madrid, par exemple. Et il met 3-4 pions à tout le monde. Donc, si tu veux, c'est un petit peu délicat. Ce qui est intéressant, c'est de voir la performance du Borussia Dortmund, qui nous a fait, en tout cas, du Borussia Dortmund durant les 20 premières minutes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en place. Ils commencent à perdre des ballons assez rapidement. On se dit que Leipzig va s'amuser avec. Et finalement, qui marque le premier but? Eh bien, c'est le Borussia Dortmund, et par un super but de Sancho. Et d'ailleurs, les premières véritables occasions, elles sont du côté du BVB et pas de côté de Leipzig. Et le problème, c'est que Dortmund n'a pas pu tenir face à la furia de Leipzig et s'en est pris 4. Mats Hummels s'est sorti à la 50e minute. Dès la première mi-temps, on a bien vu que Leipzig avait réussi à retourner la rencontre et le Borussia Dortmund n'avait pas réussi à résister. Il y a des prestations individuelles qui sont assez dramatiques. Nmetscha, évidemment, mais qui ne sera pas titulaire mercredi. Adeyemi, qui, comme je le disais ce week-end, était un peu le Leroy Sané du pauvre. C'est-à-dire qu'il a le même comportement que Leroy Sané, mais il a sûrement pas le talent de Leroy Sané. Donc, c'est plus un coureur de 100 mètres qu'un véritable joueur de football. Donc ça fait partie de ces joueurs qui sont arrivés d'Autriche et qu'on nous vend, qu'on nous survend, qui arrivent à être international allemand. Mais bon, sur la durée, ça commence à se voir. Il y a des choses comme ça qui font que c'est un petit peu compliqué en ce moment pour le Borussia Dortmund. Maintenant, le week-end dernier, ils étaient pas non plus génial contre Leverkusen et ils se prennent c'est eux qui mènent encore une fois 1-0 et ils se prennent l'égalisation durant les arrêts de jeu. Si on veut chercher des excuses du côté du Borussia Dortmund, c'est évidemment sur la composition de départ parce qu'il manquait beaucoup de personnes. Hein. Il y a au moins un tiers de l'équipe qui n'était pas là. Zabitzer a eu une infection cette semaine, donc il était sur le banc. Malen, il y a 99% de chance qu'il soit out mercredi. Emre Can et Maatsen étaient suspendus sur cette rencontre, donc évidemment on n'aura pas du tout la même équipe. Maintenant, il y a quelque chose qui me perturbe toujours avec le Borussia Dortmund, c'est que quand on regarde un peu la presse française, et j'essaye de faire le parallèle avec ce qui se dit en Allemagne, c'est que oui, c'est peut-être pas le plus flamboyant des demi-finalistes des dernières saisons ou de l'histoire de la Ligue des Champions, sauf que jusqu'à preuve du contraire, malgré le jeu, j'ai presque envie de dire pauvre et minimaliste mis par Edin Terzic, ils finissent quand même premier de leur groupe où il y a quand même le Milan, Newcastle et le PSG première version. Il y avait un quart de finale qui n'était pas évident contre l'Atleti, jusqu'à preuve du contraire, ils ont réussi à l'emporter lors du match retour et à se qualifier. Donc il y a peut-être quelques qualités quand même dans cette équipe, quoi qu'en disent certains médias français. Donc je peux comprendre que du côté de la presse française ou des Parisiens, on se dit c'est un bon tirage parce qu'évidemment, vu le jeu proposé par le Borussia Dortmund, encore une fois relativement pauvre et difficile à cerner parce que j'ai presque envie de dire le véritable adversaire de Dortmund, c'est pas Paris, le véritable adversaire de Dortmund, c'est le Borussia. On ne sait pas quel Borussia on va voir sur le terrain mercredi. Est-ce que ce sera celui de la première mi-temps contre l'Atleti? Est-ce que ce sera celui des 20 mi-temps d'après en début de seconde rencontre qui voyait rien, qui a pas vu le ballon? Je n'en sais rien. Donc c'est comme ça depuis un bout de temps. L'année dernière aussi, on pourrait rajouter ce qu'on avait raconté l'année dernière où ils étaient premiers du championnat mais avec beaucoup de chance, etc. Mais force est de constater qu'ils sont là. Et que à domicile, c'est une force de jouer au Westfalenstadion. Donc Paris est évidemment sur la double confrontation favori. De là à penser que je peux lire que ça va être une raclée tout ça, j'en sais rien. Quoi. Enfin, ça me semble. Ça me fait penser un peu à tous ces comment on appelle ça déjà, ceux qui font des paris là, les sites de paris sportifs qui mettaient le Bayern avec un coef à 5 quand on se rencontre à Arsenal. Quoi. Donc ça me fait un peu rigoler. Si t'es en demi-finale, c'est que t'as quelques qualités quand même. Maintenant, il faut voir pourquoi ça marche pas. C'est pas la première fois que le Borussia Dortmund se prend une raclée.
Oui, bon, en clair ici, ce qui se dit pour chez beaucoup de Parisiens, c'est que tu n'as pas le droit de pas passer le Borussia Dortmund en demi-finale avec des champions, quoi. En clair, c'est une opportunité énorme de jouer le Borussia en demi-finale. Ce que je peux comprendre maintenant, effectivement, la marge. Personne n'a parlé de raclée attendue non plus, mon cher Polo. Johan,
mais ça peut arriver. Hein.
Ça peut arriver, Johan.
Moi, évidemment, je souscris à ce que dit Polo. Si t'es en demi-finale, c'est que t'as des qualités. Tu peux l'expliquer par le parcours. Ça me fait penser un peu au club milanais l'année dernière où on disait oui, mais ils ont éliminé que Benfica et Porto d'un côté et de l'autre c'était Tottenham et Naples. Et donc t'as pas éliminé le Real, le Bayern, le Paris Saint-Germain, Manchester City, etc. Ce qui en soi est logique. Et si t'es en demi-finale, t'as des qualités. Tu l'as montré et quelque part tu le mérites, même si j'ai pas grande considération pour le terme mérite dans le football.
D'accord.
Néanmoins, moi j'ai vu pas mal de matchs de Dortmund, mine de rien, cette saison, en championnat, en Ligue des Champions aussi, Polo. Hein, souviens-toi les soirs de Dortmund-Milan, on était tous les deux à se dire on a vu un match d'une très faible qualité. J'en ai vu d'autres en Ligue des Champions puisque j'avais rattrapé les matchs contre le PSV. J'ai vu les deux matchs contre l'Atlético. Et effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même des énormes carences dans cet effectif-là. Alors dans l'effectif ou dans ce qui est montré sur le terrain, peut-être plus simplement, je vois une grande faiblesse de manière générale dans cette équipe-là. Je suis pas impressionné par ce que je vois. Ça manque peut-être un peu de talent déjà, peut-être un peu aussi d'idées claires sur la stratégie en cours de match ou au début des matchs, même peut-être plus. Là où je les ai trouvés vraiment conquérants, intéressants, même si tu avais le sentiment que ça faisait partie de ces matchs-là où tu tires du parking, ça fait lucarne, c'est contre l'Atlético au retour. Où là, pour moi, ils ont été vraiment convaincus. C'est le vrai bon match que j'ai vu cette saison de Dortmund. Où là, ils les ont pris à la gorge, ils ont été bons, ils ont mis de l'agressivité, ils ont mis tous les ingrédients que t'attends finalement de ce type de rencontre-là. Mais clairement, il y a beaucoup d'équipes allemandes que je mettrais au-dessus de Dortmund par rapport à ce qu'ils ont montré cette saison, rien qu'en Bundesliga déjà.
Bon, on fait une pause. Dans un instant, on prolonge sur ce duel entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Fred veut prendre la parole. On aura un invité également qui a joué pendant 10 ans le Borussia en Bundesliga. Reste avec nous, c'est Génération Affaires spéciale dans le Dame sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Armel, Polo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. On est ensemble jusqu'à 22h. On parlera, oui, il y a beaucoup de questions déjà sur l'Atalanta. Vous êtes pressé, supporter marseillais, d'avoir l'avis de Johan sur l'Atalanta fin de saison, qui fait une fin de saison exceptionnelle, avec beaucoup d'enjeux encore en championnat, en Coupe d'Italie et également en Ligue Europa. Vous restez avec nous, bien sûr, supporter marseillais. D'abord, le Borussia Dortmund qui reçoit le PSG mercredi soir. Ce sera sur RMC, bien sûr, avec notre invité qui a, évolué toujours. Toujours en Bundesliga, 10 saisons en Allemagne, que Polo connaît aussi, que les Bordelais connaissent aussi, je connais aussi, il a fait un passage aux Girondins, que Fred connaît aussi d'ailleurs, que tout le monde connaît, Joshua Guilavogui est avec nous dans Génération After. Salut Joshua.
Salut, bonsoir à tous.
Heureux de t'accueillir.
Et quel bonheur de reparler avec toi après tes années de l'Atlético, mon ami.
Je te rappelle, hace mucho tiempo ya.
C'est bien pour eux, ça fait un bon moment. Alors, je vais raconter une petite anecdote pour dire que Joshua était vraiment un joueur différent des autres. Je me souviens, il y avait eu un très grand match de Ligue des Champions. Je crois que c'était un classico, un derby madrilène. Et tu n'étais pas entré en jeu. Et j'avais dit, est-ce que je peux t'appeler juste derrière et tout. Et tu m'avais pris au téléphone, mais juste à la fin du match, quoi. Ce que, pour les journalistes, aucun joueur ne fait jamais. Ben voilà, Joshua, c'était comme ça. On pouvait vraiment très bien rare. Travailler avec lui. Donc, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi.
Ah ben c'est une belle anecdote, tu vois, je m'en rappelais plus, mais ça veut dire que tu me dois un restaurant alors.
Eh ben quand tu veux.
Bon, moi je me souviens d'avoir vu un match de Ligue des Champions aussi, Real Wolfsburg, hein, et titulaire, hein, Joshua, on va pas forcément rappeler ça, mon cher Joshua. Tu vas souvenir
2-0, 3-0 au retour.
Oui, voilà.
3 buts de Cristiano Ronaldo, tu t'en souviens.
Voilà, la première Ligue des Champions de Monsieur Zidane.
Ouais, 2016.
Alors Joshua, on est heureux de t'avoir dans Génération After avec Drôle de Dame parce que tu connais bien ce Borussia Dortmund, tu joues à Mayence depuis cette saison, tu as joué pendant 9 saisons à Wolfsburg, bien sûr, tu es un franco-germano-guinéen, si on peut le définir comme ça. Comment tu vois ce rapport de force entre le Borussia et le PSG? Est-il déséquilibré comme certains le pensent ici en France? Est-il beaucoup plus imprévisible comme Polo le raconte ici ce soir?
Honnêtement, je pense que ça va être un match très 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 difficile. En plus, Dortmund, même si Dortmund a perdu ce week-end à Leipzig, ils sont en train de jeter toute leur force dans la Ligue des Champions et ça peut être historique parce que en 2013, lorsque Munich a gagné contre Dortmund, c'était aussi à Wembley. Donc ça peut être l'histoire qui se répète et ils ont l'un des meilleurs stades d'Europe et ils sont capables de gagner tous les matchs contre tous les adversaires. Donc ça va être un match très très compliqué, mais je vois quand même Paris gagnant, surtout que le match retour sera à Paris. Donc ils pourront pas répéter, on va dire, la même performance qu'ils ont fait contre l'Atlético de Madrid.
S'il y a un danger numéro un au Borussia, ce serait qui selon toi, Joshua? Sabitzer?
Oui. Je pense que c'est plutôt un collectif parce qu'ils ont un bon groupe et c'est un groupe aussi avec des qualités différentes. Il y a un Brandt qui ressemble un peu dans sa manière de jouer à Florian Wirtz, qui est un esprit libre, qui est très créatif. Ils ont de la vitesse aussi avec Adeyemi. Ils ont Savitzer qui est capable de frapper de loin. Et comme je dis, ça c'est un match qui va se jouer avec l'ambiance. Donc c'est à PSG de réussir à remonter ce début de match où il va avoir beaucoup d'intensité, où le mur jaune va faire beaucoup de bruit. Et ensuite, je pense qu'au fur et à mesure du temps, Paris va avoir beaucoup plus de la maîtrise de balle et ils pourront installer leur jeu.
C'est vrai, Polo, on n'a pas évoqué la dimension Westfalenstadion également. Quoi. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de Parisiens à découvrir. Voilà, c'est ça.
Alors moi, je vois juste Joshua, je l'ai vu jouer à Geoffroy Guichard, mais ça
remonte
à plus de 10 ans d'ailleurs.
Mais c'est l'homme qui nous réunit tous quasiment ce soir.
Voilà. Et il y avait encore Zouma dans l'équipe. Il y avait encore Zouma dans l'équipe, donc tu vois, ça commence à remonter. Mais déjà, moi, je voudrais féliciter Joshua pour sa carrière en Bundesliga et à Wolfsburg, parce que c'est pas n'importe quoi de s'installer dans un club comme ça, même si Wolfsburg est habitué à nous faire un peu les montagnes russes chaque saison, mais c'est vraiment une très très belle équipe. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est ce que dit Joshua sur le Borussia Dortmund. Moi, quand je dis que le premier adversaire du Borussia Dortmund, c'est le Borussia Dortmund, c'est que toute sa saison en Ligue des Champions, mais y compris en Bundesliga, on ne sait pas quel Borussia Dortmund on va voir sur le terrain lorsque l'arbitre va commencer à siffler le début de la rencontre. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est très spécial. Je plus sois sur ce que vient de dire Joshua sur le fait que, sur la double confrontation, je pense que Paris est le favori, mais Paris ne doit pas, j'ai envie de dire, brûler le navire en disant on va l'emporter au Westfalenstadion. Il n'y a pas une équipe qui arrive à porté au Westfalenstadion depuis un certain nombre d'années. Donc, il sait qu'il y a quand même un peu de qualité dans cette équipe. Ensuite, Paris n'est jamais à l'abri d'une super but de Sancho, comme il l'a mis encore ce week-end, mais que d'un Adeyemi qui est très sur courant alternatif, qui te fait un contre et qui va sur 70 mètres aller marquer le but. Il y a tout ça qui est... Et puis, Julian Brandt, évidemment. Sabitzer, qui est en train de devenir le... comment on appelle ça en français, le tempo marreur, celui qui m'a... Le meneur de jeu, en
le
fait.
Baromètre,
Le baromètre un peu de cette équipe.
Marque le rythme,
voilà, on va dire comme ça. Et et tout ça fait que ça me semble beaucoup plus compliqué. Puis en plus, on est en demi-finale quand même. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, la finale est pas loin. Le Borussia Dortmund, il sait ce que c'est que lever la coupe aux grandes oreilles. Ils l'ont fait en 97. Ils ont été finalistes en 2013, etc. Donc, bon, il y a quand même un certain historique derrière.
Bon, raconte-nous ton expérience justement au Westfalen, Joshua. Est-ce que c'est forcément, ça prend aux tripes évidemment. Tu en as joué plusieurs des matchs hein, à Dortmund. Quand tu connais pas ça, tu peux être atteint émotionnellement ou galvanisé. C'est toujours la même question.
Oui, forcément, parce que c'est un stade qui est impressionnant, mais c'est un stade aussi, c'est différent de Munich, où Munich, ce sont plus des spectateurs. Donc, ce sont des gens qui viennent et qui attendent de voir le Bayern de Munich mener avec 2-3 buts d'écart. Alors que à Dortmund, c'est vraiment agressif. Ça fait penser un peu à Marseille ou un peu à Geoffroy Guichard, où on a des gens qui veulent venir voir du spectacle, mais un spectacle et ils veulent vivre ça. Donc quand on sort de ce match-là, même les supporters, ils sont émotionnellement et ils sont vidés, ils ont plus d'énergie. Et moi, ben, pour ma part, j'ai jamais gagné là-bas. J'ai fait deux matchs nuls. Mais par contre, c'est sûr que, comme on dit, de Dortmund est aussi son propre adversaire, parce que l'année dernière, justement, contre Mayence, tout le monde s'attendait à ce que Dortmund gagne et devient champion.
C'est vrai.
Et ils ont fait 2-2.
C'est vrai, ça.
Donc, il y a aussi peut-être ce petit traumatisme qui reste encore dans les esprits des joueurs de Dortmund, où ils savent que, OK, là, on a une grande chance, il faut savoir la saisir, mais il y a quelques mois de cela, on n'a pas réussi à le faire. Donc, ça va être un match quand même assez compliqué pour les deux équipes.
Je suis, avant de te libérer, tiens, un mot sur toi, hein, à Mayence. Tu as peu joué cette saison, tu as 33 ans, tu en as encore sous la semelle. Il te reste un an de contrat en Bundesliga. Qu'est-ce que tu veux faire, toi?
Je pense que je vais voir. J'aurais pu choisir la facilité en restant à Wolfsburg et ensuite avoir un travail dans le club. Mais j'ai envie de me mettre un peu en danger, de découvrir autre chose après 10 saisons en Allemagne. Mon contrat est jusqu'à juin. Après, j'ai une option. On est en train de parler avec le club. Mais je vais voir. Je vais prendre le temps. Là, on est dans une situation un peu compliquée. J'espère qu'on va acquérir le maintien. Et ensuite, on va se poser autour d'une table. On va réfléchir.
Mais pourquoi pas un retour en Ligue 1, non?
Peut-être, pourquoi pas. Déjà, je souhaite que Saint-Etienne remonte. Déjà, je passe un grand bonjour à mon capitaine, mon éternel capitaine Luc Perrin, qui fait un super boulot, et ensuite on verra bien.
Tiens, un dernier mot aussi, parce que je disais que tu étais aussi occupé par ta fondation que tu diriges, qui vient en aide aux orphelins dans ton pays d'origine, la Guinée.
Exactement. Nous avons une fondation créée depuis 2019. Donc, c'est un orphelinat. Et actuellement, nous avons 23 enfants, 12 filles et 11 garçons qui sont soit orphelins des deux parents ou soit de père ou de mère. Et ils sont nourris, logés et scolarisés à l'école.
Voilà. Mais écoute, bravo, Joshua. C'est un plaisir de t'accueillir. Oui. Heureux d'entendre ta voix à nouveau. Et puis, n'hésite pas. Peut-être une carte de consultant aussi, hein, plus tard, peut-être pour toi, mon cher Joshua. Et en plus, je pense qu'il est content, Joshua, qu'on l'appelle Joshua et pas Joshua, comme beaucoup le font, tu vois.
Voilà. Et ça, c'est les Allemands qui m'appellent Joshua.
Joshua, bien sûr. Voilà. Merci, très bonne soirée à
merci
toi.
Beaucoup,
très vite
plaisir.
Sur RMC.
Très bien. Merci, passez une bonne soirée.
À bientôt. Ciao. Voilà, les gars, pour ce Borussia PSG. Polo, tu voulais ajouter quelque chose? Tiens, Mats Hummels, on nous demande également, sera-t-il remis? Il est sorti blessé ce week-end.
Apparemment, il sera apte. Et ce sera de toute façon un gros point d'interrogation parce que il était excellent, il est en train de redevenir tracteur en ce moment. Sinon, ce sera Zule évidemment qui jouera en défense centrale, mais apparemment il sera titulaire. Sabitzer devrait être là, Emre Can et Madsen vont revenir. Par contre, Malen, il y a 99,9% de chance qu'il sera même pas sur la feuille de match.
Faut-il avoir peur pour Ryerson qui a été catastrophique ce week-end, qui va se prendre Ousmane Dembélé mercredi soir?
Bah, déjà, il jouait à gauche, Ryerson, donc c'est pas son poste, hein. Et là, il va revenir à droite, parce que Madsen joue à gauche. Ryerson.
Il va prendre Mbappé, quoi.
Va prendre Mbappé.
Oh, bah, ça va.
On va voir. Ou Barcola.
Ou Barcola, exactement. Barcola, ouais.
Mais je voudrais juste rajouter une chose, c'est on oublie la double confrontation contre Newcastle aussi. Le Borussia Dortmund a une faculté de résilience qui est très énervante au passage, parce que on n'arrête pas de demander. On a dû discuter dans l'after 236 fois d'Edin Terzic, doit-il être encore avec le coach du Borussia Dortmund? Ça fait 18 mois qu'on se pose encore la question. Il n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, mais il est en demi-finale de Ligue des Champions, et c'est ça toutes les semaines. Et moi, quand même, si on cherchait un match référence, ce serait pas celui contre l'Atleti. C'est lorsque le Borussia Dortmund l'a emporté à Newcastle avec un peu de chance, je pense. Que Newcastle méritait le match nul, mais sur la double confrontation, ils l'ont quand même remporté deux fois. Donc je pense qu'il y a des petites choses quand même à aller chercher. Paris doit être surtout pour moi très sérieux. C'est-à-dire, penser que c'est joué, je pense que c'est la pire des choses. Et il faut faire attention de ne pas craquer là-bas. C'est-à-dire que pour moi, je serais, tu vois, s'il y avait un 0-0 là-bas, je serais Paris, je serais super content, quoi.
Et je voulais simplement dire de ce que j'ai vu du Borussia face à l'Atlético. C'est en fait que Paris doit profiter des fringales, parce que par un certain moment, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu as le Borussia qui fait n'importe quoi.
Un temps faible, tout à fait.
Vraiment un temps, mais vraiment, c'est l'impression qu'ils sont plus là, quoi. Et donc, faut profiter de ce moment-là, quoi.
Voilà pour cet avant-match Borussia PSG. Vous serez là, Polo, Julien peut-être aussi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi pas Julien, pour l'inviter.
Je serai au match.
Il sera au match évidemment. Le mec, il trouve le moyen d'être Ligue des Champions quand il a pas de club anglais. C'est fantastique. Qu'est-ce que c'est?
Non, mais le PSG pour la télévision anglaise, c'est normal.
Bien sûr, t'es là.
Tout à fait.
Bon, Julien, d'ailleurs, je te laisse la parole car c'est l'heure de ta minute. On envoie la musique, Polo.
Je vais laisser un petit peu hein, parce que le début est quand même assez iconique. Et un peu plus fort. Pour ceux qui ont reconnu bien sûr les Kaiser Chiefs avec A Predict a Riot. Donc je prédis une révolution, on peut dire ça comme ça. Les Kaiser Chiefs qui viennent de Leeds, bien sûr, qui sont un groupe de rock anglais de Leeds, qui sont des grands grands fans de Leeds. La chanson est jouée d'ailleurs à Leeds, les supporters de Leeds chantent la chanson. Sauf que Leeds a pris 4-0 à Queen's Park Rangers vendredi soir, ce qui a automatiquement promu Leicester qui joue ce soir là dans quelques minutes, mais qui est déjà officiellement en première ligue la saison prochaine. Et un petit chambrage sympa comme on l'a fait nous la semaine dernière par exemple, quand on le fait quand un de nos clubs est éliminé, etc. Quand Leicester a annoncé donc sur les réseaux sociaux la montée en première ligue, quelle chanson ils ont mis? A Predict a Riot.
Magnifique.
Bien sûr, ça valait bien la peine, un petit peu de chambrage comme ça. Et donc c'est au son du groupe de rock le plus fan de Leeds United qu'ils ont fêté et célébré leur montée en première ligue.
Faut rappeler pourquoi ce groupe s'appelle Kaiser Chiefs aussi, Julien. Hein. C'était grâce à Lucas Radebe, c'est ça, hein.
Tout à fait,
joueur exactement. Capitaine du Leeds United.
Lui-même venait du club Kaiser d'Afrique, Chiefs, hein. D'Afrique.
Exactement. Voilà.
Tout à fait.
Bon, Leicester hein, qui va jouer ce soir donc pour l'honneur. Jimmy Vardy qui va retrouver la première ligue. Julien, faut aussi souligner ça, c'est important. Et, ouais. Il a eu des offres l'été dernier pour aller jouer en Arabie Saoudite. Il a essayé de rester à 36 ans.
Et il a bien aidé son club et Enzo Maresca que Yo connaît bien, que Fredo a aussi eu un petit peu à Séville en tant que joueur et en tant qu'entraîneur adjoint, qui a fait ses gammes avec Pep Guardiola à Manchester City et avant d'aller à Parme, ça s'est pas très bien passé. Et là, il fait une saison magnifique. Jamie Vardy qui a aidé avec quelques buts, lui, l'ancien, et une seule année en Championship pour Leicester qui remonte donc 10 ans après leur première remontée qu'ils avaient amené, bien sûr, aussi de champions, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, etc., etc. Et là, ils reviennent l'année prochaine avec quelques soucis financiers, un peu, bien sûr, quand même, puisqu'ils ont beaucoup dépensé, ils ont une masse salariale, je l'avais déjà dit, je crois, une des plus hautes en Europe, ce qui est hallucinant quand t'es en Championship, la 16e plus haute d'Europe. Donc il va falloir un petit peu gérer tout ça. Mais voilà, ils sont de retour avec un entraîneur encore une fois jeune, un très bon entraîneur qui fait partie de cette nouvelle vague d'entraîneurs dont on parle beaucoup dans tous nos pays. Donc c'est très très bien pour eux. Voilà. Et le même week-end où Sheffield United a été officiellement relégué en Championship, eux aussi après seulement un an en Première Ligue, c'est la montée de Leicester qui a aussi été fêtée.
Leicester avec trois joueurs passés par la Ligue 1, Woodfess, Mavididi et Ricardo Pereira, l'ancien niçois.
Tout à fait, Mavididi qui fait une très belle saison aussi.
Dans un instant, le Bayern Real surtout avec Fred et Polo, on va en parler bien sûr. Johan et Julien pourront s'inviter dans ce duel, un grand classique, un classico, nous dit Fred, nous dira pourquoi beaucoup de confrontations entre ces deux immenses clubs, 20 Ligues des Champions cumulées. On en parle dans un instant avec les Drôles de Dames sur RMC. À tout de suite.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas, avec les Drôles de Dames comme tous les lundis soirs RMC. Merci d'être avec nous. Il est 20h34 avec Polo Breitner, Julien Laurent, Johan Crochet et Fred Hermel. On est ensemble jusqu'à 22h. Mon cher Fredo, on remarque sur le chat que tu as perdu du poids. Voilà.
Mais oui.
On te connaît, tu as des fans. T'as combien là?
J'ai perdu 6 kilos là en
6
deux
kilos
mois.
Bien, 6 kilos.
Mais c'est simple, je mange moins.
Voilà. Voilà. Bon, mais écoute.
Je bois moins aussi. Déjà, j'étais avec modération, mais là, c'est encore moins. Mais...
Bon.
Je marche beaucoup.
Tu marches beaucoup.
Ouais.
La marche
énergique, on va dire.
Alors, demain soir, les gars, on ouvre demi-finale de Ligue des Champions. Ça va courir, bien sûr. Le Real Madrid face au Bayern. Bayern Real, grand classique européen. On en parle avec vous, les Drôles de Dames. Tu disais tout à l'heure, tu posais la question, est-ce que ce Real n'est pas un peu trop confiant avant ce duel? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que tu lis ça dans les déclats des Madrilènes?
Non, je pense que c'est plus l'atmosphère qu'il y a à Madrid autour de ça, en disant ça y est, on est en finale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont passé Los City, oui, et que le Bayern n'a pas dégagé cette saison, en tout cas vu d'Espagne, et une sérénité telle qu'on pouvait la connaître, il y a un sentiment, allez, ça y est, on est déjà en finale contre le PSG, quoi. Et ça, alors après, c'est tout le travail d'Ancelotti, de travailler avec ses joueurs et les joueurs, voilà. Mais même dans les déclarations des joueurs et tout, t'entendais Valverde qui dit qu'il a pas pris le penalty, le tir au but contre City tellement il était crevé, quoi. Donc ils s'attendent pas à deux matchs aussi durs contre le Bayern que ce qu'ils avaient eu contre City. Même si il y avait quand même quelque chose d'historique, et avec le Bayern, c'est vraiment la demi-finale de Ligue des Champions par excellence, quoi. C'est-à-dire, on a tous des souvenirs extraordinaires, quoi. Rappelez-vous le 4-0 d'Ancelotti, la décima, la fameuse décima en 2013, les 4-0 sur la pelouse du Bayern de Guardiola. Le fameux penalty manqué de Ramos, vous vous souvenez, qui restera l'un des souvenirs les pires de Mourinho. C'est en demi-finale et le Real ne va pas en finale à cause d'un penalty au Ramos. Alors il y a plein de conneries qui ont été racontées après parce qu'on dit qu'il est toujours en orbite le ballon tellement il a tiré au-dessus de la transversale quoi. Donc c'est vraiment un match particulier. Mais moi ce que je crains c'est de dire voilà on a fait peut-être un petit peu le plus dur, même un exploit face à City. Et là il y a vraiment un boulot quand même de la part d'Ancelotti de rappeler l'importance de ce match et que le Bayern est aussi dangereux, voire plus dangereux que City. Voilà, donc.
Polo, t'es d'accord avec ça? Le Bayern, hein, c'est pas tout à fait le même qu'avant le quart de finale, notamment, quoi. On est sur 4 victoires consécutives en Bundesliga, dernière ce week-end.
4 victoires à la suite, il y a une qualification contre Arsenal, alors que tout le monde annonçait que le club munichois allait se faire sortir. Il y a surtout donc, le fait d'être revenu en demi-finale de Ligue des Champions, ça n'a l'air de rien, mais ça faisait 3 ans que le Bayern n'y était pas. Moi, je constate, malheureusement pour le jeu produit ces dernières saisons par le Bayern Munich, que c'est une équipe peut-être un peu plus solide, un peu plus cynique, qui récupère un paquet de ses joueurs là pour cette demi-finale, parce qu'apparemment Moussiala et Leroy Sané seront titulaires, alors que ces dernières semaines on jouait avec Thomas Tuchel et Choupo-Moting notamment.
Thomas Müller et
Choupo-Moting notamment. Je constate aussi, comme Fred l'a dit, que ce derby d'Europe, une fois de plus, est en demi-finale, parce que ces deux clubs monstrueux européens ne se sont jamais affrontés en finale de Ligue des Champions,
faut
pas l'oublier. Ouais. C'est un truc complètement fou. Et qu'à chaque fois, c'est super serré. C'est-à-dire qu'il y a le 4-0, évidemment, mais quand tu regardes l'histoire entre les deux confrontations, c'est pas une question de qui est le favori, pourquoi, comment. C'est que souvent, ça a été en prolongation, parfois, ça a même été au péno, etc. Et ça se joue à pas grand-chose. Sur la double confrontation, on peut considérer que le Real est favori parce que, justement, ils ont sorti Manchester City, qui était le favori de la compétition, mais c'est aussi peut-être un désavantage, c'est-à-dire que doit faire le Bayern? Le Bayern, ce week-end, il s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, donc on a sauvé le minimum syndical. Là, on rencontre le Real, si on se fait sortir par le Real, bon, ok, c'est l'histoire qui parle, pas grave. Mais pourquoi on ferait pas un exploit? Et en plus, une fois, il y a quand même un coach aussi, Thomas Tuchel, en fin de saison, qui ne sera plus là, qui, sur les derniers exercices en Ligue des Champions, a amené Paris en finale, l'a emporté avec Chelsea, et quand je dis ça, c'est avec une méthode très cynique, beaucoup moins engageante au niveau du jeu que Nagelsmann, par exemple. Mais est-ce que Arsenal a eu beaucoup, beaucoup d'occasions lors de la double confrontation? Je suis pas persuadé, avec les souvenirs que j'ai de la double rencontre. Voilà, il y a la dimension physique qui est très importante. Je constate que même les Anglais, dans certains papiers, ont trouvé que le Borussia Dortmund et le Bayern Munich avaient une densité physique qu'on n'avait peut-être plus l'habitude de voir ces dernières saisons, et notamment lorsqu'on parle de certains clubs anglais. Donc voilà, moi il y a des choses qui me semblent importantes. Et encore une fois, moi je sais pas, Real Bayern, je lance la pièce en haut et puis Arton où elle a envie quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Moi ça me dérange pas.
Mais c'est un peu le duel de la vieille aristocratie du football en fait, hein, face aux nouveaux riches. On est vraiment dans un esprit différent et eux-mêmes se sentent un petit peu à part par rapport à d'autres clubs. La dimension physique est importante. Alors il faut expliquer quand même que le Real ce week-end ont pu faire tourner, mais ils ont gagné à Saint-Sébastien. On en a parlé vendredi soir, mais avec l'équipe BBB, c'est-à-dire avec des remplaçants. C'est-à-dire que il y a un voire deux joueurs qui étaient titulaires ce vendredi, qui risquent d'être titulaires demain. Donc c'est dire que là, ça fait un vrai repos pour les joueurs du Bayern, du Real, qui ont quand même beaucoup souffert physiquement contre City. Tout à l'heure, Sofiane nous posait la question du 11 contre le Real. C'est quasiment sûr. Il n'y a qu'un vrai doute. Est-ce qu'Ancelotti va mettre Nacho en défense centrale, qui a été exceptionnel contre City au match retour, ou mettre
Tchouaméni?
Voilà, c'est le seul doute, parce que pour le reste, bon, alors il y a Lucas Vázquez qui va jouer à la place de Cavaral, parce que Cavaral est suspendu, mais Lucas Vázquez qui était exceptionnel, notamment contre le Barça lors du Classico, un participant aux 3 buts de la victoire. Donc voilà, franchement, là, et puis il y a le côté, là aussi, c'est un match contre le Bayern, donc là, il y a tout ce qu'il y a, la dimension de, qu'on appelle ça, j'ai plus le mot en français, vous savez, quand on croit à des trucs, les talismans, etc. Superstition. C'est-à-dire que comme à City, ils avaient emmené un gamin d'origine de Porto Rico qui s'appelle Jérémy De León, qui joue comme attaquant au Castilla, qu'il avait emmené pour notamment pour les entraînements à la veille du match, etc. Comme ils ont gagné à City, enfin comme ils se sont qualifiés à City,
d'accord,
ils l'ont ramené dans l'avion Munich. Alors qu'il devrait jamais être là, ils l'ont mis dans l'avion là.
Marrant.
Il y a ce côté là très 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 superstitieux de qui font qu'on sent les grands matchs. Après, on attend toujours depuis le début de l'année 2024 le grand match de Bellingham. Il n'est pas vraiment venu contre City, donc on l'attend là maintenant. Il n'est pas vraiment venu, même s'il a marqué le but de la victoire contre le Barça. Il fait pas un grand match. Donc il y a ça. Donc j'ai très très envie de voir cette demi-finale. Et je vais vous dire, pour moi, elle m'excite encore plus que le quart de finale contre City, parce qu'il y a un petit côté vintage,
oui, il y a une dimension historique et tout, presque encyclopédique
qui fait, et je vais vous dire pour beaucoup de supporters du Real, perdre contre City de Guardiola, c'est insupportable. Tu perds contre le Bayern, c'est chiant, mais c'est pas si grave.
Bon, on parlera d'Harry Kane également plus tard. Peut-être lundi prochain, on verra le match aller. Lui qui court après un premier titre dans sa carrière et qui veut prolonger cet espoir cette saison. En revanche, mon cher Polo, on voulait pas Clément Turpin. C'est lui qui sera l'arbitre de ce match entre le Bayern et le Real. C'est un très mauvais souvenir pour le Bayern. T'as Uli Hoeneß qui a rué dans les brancards, qui a dit qu'il aura quand même du mal à faire pire que la dernière fois. La dernière fois, c'est le 19 avril dernier 2023.
Alors ouais, il y a ça. Et contre City. Il y a quand même aussi, ne l'oublions pas, enfin cette semaine, l'interview d'Uli Hoeneß, que je pense que le club munichois n'est pas un club comme les autres, parce qu'il y a les Elephanten qui sont toujours là, ceux qui sont au board. Uli Hoeneß a fait une interview fracassante dans la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, où il a juste tranquillement égratigné, je vais dire ça d'une façon diplomatique, son actuel coach Thomas Tuchel, en lui faisant comprendre que finalement Thomas Tuchel n'est pas un coach pour développer des jeunes joueurs comme Davis, comme Pavlovic ou d'autres. Il dit, lui, tout ce que sait faire Thomas Tuchel, c'est lorsque ça ne va pas, il faut acheter un nouveau joueur. Ce qui au passage n'est pas complètement faux quand tu vois l'évolution de Thomas Tuchel et de certaines de ses déclarations il y a quelques années, où il se considérait plus comme coach formateur. Il a été blessé, Thomas Tuchel, il a répondu, faisant comprendre que c'était un peu scandaleux d'entendre ce genre de choses, etc., et qu'il se sentait blessé en tant que coach, pas dans sa fierté la plus profonde. Et c'est aussi l'ambiance du Bayern Munich, c'est-à-dire qu'une demi-finale de Ligue des Champions où beaucoup de personnes auraient tendance à dire si ça ne s'aime pas, voilà, c'est important, le match est là. Ben non, au Bayern c'est différent. Il y a le vieux 72 ans Uli Hoeneß qui met une cartouche dans la à son entraîneur juste avant. Donc moi je trouve
Il est placide de Pastorel, avec toutes les critiques qu'il prend. Il se fait tancer chaque semaine quasiment par la direction. Oui. Il est là en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Exactement. Pour ce Bayern Real, mercredi soir sera sur RMC, mardi soir sera sur RMC bien sûr, dès demain 20h l'avant-match. La minute deuxième de la soirée, elle est italienne. On envoie la musique, Polo.
Ero zenotti, macchina calda, e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta.
Ligabue, j'ai déjà mis d'autres chansons de lui, j'adore. Grand tifoso de l'Inter, Certe notti, la chanson. Donc pour rendre hommage au titre de l'Inter, j'ai choisi un chanteur interiste qui était dans la Gazzetta dello Sport il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, pour exprimer son amour de l'Inter. Et on va parler de Sassuolo, ça se passe pas bien. Pris 5 buts à Florence hier soir, après une défaite 3-0 à Lecce à domicile. Et surtout le club qui file tout droit vers la Serie B. On n'imaginait pas trop ça parce que c'est un club qui nous avait habitués à nous surprendre un petit peu, à finir entre 8 et 12 de manière très régulière. Et puis, ils sont allés un peu trop au bout, à l'extrême d'un système qui remplit les caisses, mais qui paupérise un peu l'effectif. Et le problème, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, tu as vraiment rempli les caisses pour le coup avec les Scamacca, Raspadori, Boga. Ils ont perdu aussi Djuricic, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Et derrière, quand tu ne remplaces pas bien, quand tu investis moins, quand tu rates ton recrutement, tu as une saison de galère. Ils sont en plein dedans. En plus, Berardi, qui est vraiment le joueur majeur de cette équipe-là, a eu quasiment des blessures toute la saison. Il a très, très peu joué cette saison, alors que c'est un joueur vraiment majeur même de Serie A, pour le coup, qui n'a rien à faire à Sassuolo en temps normal, si ce n'est son amour pour le club. On va retrouver sans doute cette équipe-là, qui était un peu un modèle de développement pour beaucoup. Pas seulement en Italie, d'ailleurs, mais on le regarde un peu comme un modèle partout en Europe. Pour les clubs de cette stature-là, on va le retrouver en Serie B, mais ils auront en tout cas toutes les les ressources pour remonter rapidement, pour remonter un projet. Ça, je me fais pas de soucis. Ils ont la Mapei derrière, qui est quand même très très grosse entreprise italienne, avec la famille Squinzi qui perdure malgré le décès de Giorgio il y a plusieurs saisons. Donc c'est peut-être qu'un au revoir de quelques mois, mais c'est en tout cas une très mauvaise saison de Sassuolo.
Suivant la trajectoire également de Maxime Lopez, prêté par Sassuolo à la Fiorentina, ouais. Savoir s'il va revenir à Sassuolo.
Bah, s'il revient, il ne sera pas pour aller en Serie B.
Sans Serie B, mais non. Donc voilà, peut-être en Ligue 1, une idée pour les clubs français qui peuvent nous écouter également, parce qu'il avait marqué de son passage, hein, Sassuolo.
Et puis avec De Zerbi, ça se passait très 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 bien avec De Zerbi et Locatelli. C'était une très belle parenthèse de la carrière de Maxime.
Pause. Dans un instant, Arsenal peut-il vraiment encore croire au titre? On va en parler avec Julien Laurence, toujours un point d'avance sur cette team et qui compte un match en moins. D'abord, un détour par la Ligue 2. C'est parti entre Dunkerque et Auxerre. Bonsoir, Jean Baumel.
Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir, les drôles de dames. C'est parti depuis deux minutes. Salut, ça te concerne beaucoup, Johan.
Il n'y a pas la licence ce soir, alors. Dunkerque, c'est.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a, là?
Non, faut qu'il fasse.
Le dessin dauphin. Donc, ou alors faudrait faire le pirate Jean Bar, mais tu vois.
Ou l'arrivée du bateau marchand au port de Dunkerque, quoi, un truc comme ça.
Oui. Bah écoute, surtout là, l'objectif des deux équipes n'est pas le même. C'est de se maintenir côté Dunkerquois. 4 points d'avance sur le premier barragiste. Bon, il y a un joker. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Ils ont fait une série quand même assez incroyable de 10 matchs avec 8 victoires en début d'année et de nuls. Alors qu'on pensait qu'ils étaient totalement condamnés comme Valenciennes, les Dunkerquois. Et puis pour la JOCR, c'est de prendre de l'avance pour la montée en Ligue 1, puisque au classement, hein, ils ont 4 points d'avance sur 3. Et pour en avoir 7, hein, ce serait pas acquis ce soir. Et en tout cas, ce serait de bon augure pour l'équipe de Christophe Pélissier de s'imposer à Dunkerque qui pour l'instant un peu plus le ballon, mais il n'y a pas eu la moindre occasion. Ça se taquine un petit peu au ballon. Mais rien d'extraordinaire pour l'instant. 3 minutes 30, 0-0.
Dans un instant, Arsenal et puis le départ annoncé de Thiago Silva de Chelsea avec les drôles de dames et Julien Laurence. Reste avec nous, c'est RMC 20h48. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Spécial drôle de dames, comme tous les lundis soirs sur RMC, avec Fred Armel, Paulo Breitner, Johan Crochet et Julien Laurence. Rapide point d'un Carcosser. Mon cher Gibaud.
Ouais, ça commence à bien pousser de la part des joueurs de la JOCR et Dunkerque qui se dégage comme il peut avec un ballon là balancé très très loin de la part de Yon Bilingui. On est à la 6e minute de jeu et le favori du match pour l'instant continue à tenter les assauts. 0-0 pour l'instant.
Arsenal est donc toujours leader de Première Ligue, Julien. Mais combien de temps, c'est la question. Victoire fébrile 3-2 à Tottenham, mais qui maintient l'avance d'un point sur City qui doit jouer un match en retard justement à Tottenham le 14 mai. Est-ce qu'on n'a pas peur, Arsenal, de se diriger vers un scénario 2022-2023? Être en tête, City qui a des matchs en retard et qui finit par les valider, ces matchs, et être champion?
Alors, ce serait très différent de la saison dernière, quand même, où ils se sont écroulés lors des 10 dernières journées, où ils ont gagné que 7 points, je crois, sur les 9 derniers matchs. Donc, 7 sur 27, ça fait quand même pas beaucoup. Alors que là, même si, effectivement, tu pourrais finir la saison avec 89 points et pas être champion, ce qui c'est assez incroyable, alors ce qui serait pas encore tout à fait... Ce qui est arrivé à Liverpool où ils n'étaient pas champions avec 97 points, 89 points sur une saison quand même, ce serait magnifique. Tu serais juste battu par la meilleure équipe de l'histoire de la Première Ligue et peut-être l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de l'histoire du championnat anglais, toute génération et époque confondue. Donc ce serait difficile à avaler, bien sûr, parce que tu as été très bon toute la saison. Tu as peut-être été d'ailleurs la meilleure équipe toute la saison, malgré tes 5 défaites contre 3 simplement pour l'instant à City. Mais c'est aussi possible, effectivement, que tu sois pas champion. Pour l'instant, en tout cas, ta course au titre, ou tes espoirs, tes rêves, tes ambitions, tout ce que tu veux, dure plus longtemps que la saison dernière. Déjà, c'est déjà ça. Après, effectivement, il leur reste 3 matchs. 2 à domicile, contre Bournemouth et Everton. 1 à l'extérieur à Manchester United. Contre 4 à City, tu l'as dit. Ils auront 2 matchs à l'extérieur, dont celui à Tottenham, qui semble, en tout cas, sur le papier, le plus compliqué peut-être à gérer pour City. Mais qui n'a plus de la Ligue des Champions, on en a déjà assez parlé, qui reste la finale de Coupe d'Angleterre à la fin de la saison, et donc que ce championnat sur lequel se focaliser. On a vu une équipe de City faire le job contre Forest hier, gagner 2-0, sans être flamboyant, sans être bon d'ailleurs, tout simplement, en ayant un peu de réussite défensivement, en marquant 2 buts, dont celui d'Erling Haaland, entré en jeu et qui marque sur sa 2e touche de balle. Voilà, il n'y avait pas de Phil Foden, il y avait une équipe qui semble un petit peu fatiguée, mais qui est toujours là et qui a son destin en main. Parce que même si Guardiola nous a habitué cette saison à dire celui qui est premier au championnat, c'est lui le favori. Si City gagne tous ses matchs, ils seront champions. Pour Arsenal, ce match à Tottenham hier, dans le derby, dans cette ambiance extraordinaire, ressemblait aussi à une peau de banane un petit peu. C'était là où ils pouvaient perdre des points. Ils ont gagné, ils ont mené 3-0 à la pause après une première période exceptionnelle d'efficacité, notamment sur coup de pied arrêté et en transition offensive, ce qu'ils savent très bien faire. D'ailleurs, cette équipe d'Arsenal, là où elle est très forte cette saison, c'est qu'elle sait à chaque fois exploiter les défaillances adverses, on va dire, les petits points faibles adverses. On parlait tout à l'heure des temps faibles de Dortmund qui ne savent pas bien gérer. Eux, Arsenal, ils savent très bien gérer leurs temps forts et leurs temps faibles. Même si ces derniers temps, ils ont un peu l'habitude de faire des grosses erreurs qui donnent des buts à l'adversaire. On l'a vu hier à Tottenham, deux erreurs qui donnent deux buts. On l'a vu contre le Bayern de Polo, on l'a vu contre Aston Villa aussi en championnat. Mais c'est vrai qu'ils ont cette incroyable capacité à exploiter les défaillances adverses qui, moi, je trouve ça fantastique à voir, vraiment. Même si ça a été un petit peu chaud en fin de match, parce que Tottenham revient à 3-2 à la 85e minute, il pousse un petit peu après. Mais au final, c'est une très belle victoire pour Arsenal qui compte beaucoup, qui pourrait compter encore plus si, bien sûr, ils sont champions.
Ouais, tu l'as dit, Arsenal qui va recevoir Bournemouth, déplacement à United, réception d'Everton pour boucler ce championnat exceptionnel des Gunners. Un mot quand même, Julien Gamond, Thiago Silva, qui a publié une annonce vidéo aujourd'hui pour dire qu'à 39 ans, il quittait Chelsea, hein, il était en fin de contrat, 4 saisons, 151 matchs. Est-ce que ça émeut en Angleterre? Je rappelle, hein, c'est aussi une victoire avec des champions, hein, pas de titre en Angleterre. Est-ce que ça émeut ou pas, son départ?
Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup aujourd'hui. On s'y attendait. Il était en fin de contrat déjà. Et même lui, il le rappelait dans sa petite vidéo que le club et que lui-même ont posté sur les réseaux sociaux aujourd'hui en disant j'étais venu pour un an. C'est vrai, il était venu parce que Tourelle était là, parce que il voulait rester au PSG. Ils n'avaient pas voulu le garder, qu'il voulait encore rester un petit peu en Europe pour jouer encore un peu de Ligue des Champions, pour pourquoi pas la gagner un jour. C'était quand même son rêve absolu, ce qu'il n'avait pas pu faire au PSG. Et puis la saison s'est transformée en 4 saisons. Ça n'a pas toujours été formidable pour lui. Bien sûr, il y a l'extase de cette finale de Ligue des Champions où d'ailleurs il se blesse après 40 minutes de jeu. Il est remplacé par Christensen, mais au final, il est quand même champion d'Europe. Après, ça a été parfois plus compliqué. Il a connu beaucoup d'entraîneurs. Il a connu des bas, peut-être même plus que des hauts. Mais au final, il a aimé cette ville. Il a aimé ce club, ses supporters. La famille aussi, c'était très bien adapté. Maintenant, il est temps à 39 ans de retourner au Brésil, de peut-être avoir une dernière pige à Fluminense. Et puis voilà, il aura bouclé la boucle. Mais je trouve que à 36 ans, il avait été courageux de venir en Angleterre parce que c'était pas facile qu'il s'y impose. Alors, il s'y imposait dans une défense à 3. Je pense qu'à 4, ça aurait été plus compliqué, mais à 3, ça a très bien marché pour lui. Et puis voilà, je trouve que c'est beau à cet âge-là de te lancer un dernier défi comme ça, d'aller dans un championnat que tu connais pas, une langue que tu connais pas, un football qui est complètement différent de tout ce que t'as connu avant au Brésil, en Italie et en France.
Enfin, t'as de l'affection pour lui, Julien.
Ouais, mais moi, on était très proches, quand RMC avait les droits de la première ligue, on se voyait souvent, sa femme et ses enfants aussi étaient souvent à Stamford Bridge. Voilà, on se parlait beaucoup. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé, beaucoup apprécié, quelqu'un à qui tu pourrais parler après les matchs. Tout à l'heure, on parlait de Guilavogui et de Fredo. Thiago Silva, il fallait l'attendre longtemps, hein. Parce que la douche c'était long, les cheveux c'était long, la crème pour la peau c'était long, tout était très long.
J'en ai connu des comme ça. Ça serait rigolo de raconter quel est le plus long. Moi j'en ai un. Le plus long d'histoire.
Moi, Thiago, c'était imbattable.
Thiago,
il sentait bon, hein. Il sentait tellement bon. Je l'attendais dans le froid.
De lui faire un
hug. Il sentait bon. Mais, on faisait petit câlin toujours au début à la fin. Mais il sentait tellement bon, c'était magnifique à voir.
En Espagne, le pire, en tout cas en Real, c'est la Raoul. Mais Raoul, il sortait, mais 3 heures après tout le monde.
Ah bon?
Alors quand t'avais rendez-vous pour l'interview, mais c'était.
Non, après, il y a ceux qui le font aussi pour être le dernier à passer.
Mais lui, il traînait beaucoup.
Ceux qui aiment se faire attendre, tu vois.
Ouais, N'Golo, il faisait souvent ça, N'Golo Kanté, en espérant que tu t'en ailles avant lui.
Oui, il faisait ça.
Fait.
Oui, bon,
pas voilà, mais il faisait ça gentiment. Ouais. C'était de la gentillesse absolue avec Kanté. Mais voilà, il espérait que tu sois parti avant lui.
Bon, t'avais aussi la méthode Viltord qui lui passait assez rapidement, mais avec le téléphone scotché à l'oreille. Sans appel en cours, quoi. C'était magnifique.
J'ai même vu un joueur.
C'est pas Thomas Müller qui avait fait semblant que sur un téléphone, en fait, c'est son passeport.
Ouais, tout à fait.
L'humour Thomas Müller. Ouais. Bon, voilà pour Arsenal et pour Thiago Silva. Dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille, Atalanta, jeudi soir, Ligue Europa, demi-finale. Et Johan veut en profiter pour rendre hommage au travail de Gianpiero Gasperini. Reste avec nous. Les Drôles de Dames sont sur RMC 0-0, toujours entre Dunkerque et la JECR. Dans un instant, on lance également le match entre le Barça et Valence dans un Montjuïc étonnamment désert. Reste avec nous. RMC, les Drôles de Dames reviennent dans un instant.
Génération After.